Hello Camille, j'espère que ça va. Moi je marche dans les rues de Mulhouse. Tu entends ma valise rouler sur la route. En fait je rentre, c'est le dernier jour. Et ça fait une semaine que je ne t'ai pas fait d'enregistrement. Je crois que je m'étais habituée à ce que tu me répondes à chacun. Donc voilà, je te fais un enregistrement un peu tardivement, juste avant de rentrer. Je voulais déjà te parler plutôt dans la semaine d'un artiste que j'ai rencontré tout en début de la semaine, qui s'appelle Yvan Etienne, qui est un artiste sonore. Et parce que j'avais eu une discussion très intéressante avec lui, donc j'avais très envie de t'en parler, de ses recherches autour du son et de sa spatialité, de son volume, de comment il informe sur une architecture. Et après je l'ai pas fait parce qu'en fait il y a quand même un problème à tout ça, c'est que à part sur internet j'ai pas vraiment eu accès à ce qu'il fait. J'ai pas vu de concert ni d'installation en vrai, et du coup sur internet ça donne un aperçu de quelque chose, mais en fait tu passes à côté du truc. Et donc j'avais vraiment trop peur d'être injuste en fait par rapport à son travail. Donc j'ai décidé de t'en parler un tout petit peu là maintenant, de pourquoi j'en ai pas parlé, même si dans les enregistrements que je te fais et que je ne prépare pas, j'accepte évidemment cette part d'erreur, ou plutôt d'imprécision qu'il y a des fois dans la pensée qui se cherche. Voilà. Je suis très chargée, alors je galère un peu parce que les gens ils m'offrent beaucoup de livres qui sont lourds à transporter. Donc là j'avais envie de te parler d'une artiste que j'ai rencontrée à Strasbourg, parce que j'ai passé le week-end à Strasbourg, ce qui m'a fait bien penser à toi. Je suis passée à l'Artothèque où tu as été en résidence au début de l'année, enfin je crois, enfin en tout cas il y a déjà un petit moment. Et donc j'avais envie de te parler d'une artiste, mais en fait tout à la fin quand je suis partie elle m'a dit « Ah, et puis tu passeras le bonjour à Camille, donc en fait vous vous connaissez ». C'est une artiste qui s'appelle Horace Lund, et j'ai vraiment beaucoup aimé son travail et je me suis dit que j'allais t'en parler, même si tu connais, parce que bon, il n'y a pas que toi qui écoute les enregistrements que je fais sur le blog. Donc je me suis dit d'ailleurs que tu avais fini par devenir vraiment une sorte de Diane plutôt que la première Diane à qui j'écrivais. En fait c'était toi, ma Diane. Et en fait, Horace, son travail est typiquement le genre de travail qui doit être vécu, ou à défaut porté par un récit, parce que en fait, quand on regarde son site internet ou son portfolio, on a accès aux photographies des installations, mais pas du tout à l'histoire qui est derrière, parce que tout est très inspiré de la mythologie chez Horace, comme son prénom, qui n'est pas son vrai prénom, qui est son nom d'artiste, mais bon, qu'elle a adopté, je crois, pour sa vie quotidienne autant que professionnelle. Et on n'a pas du tout accès non plus à la spatialité, à la déambulation du corps et à ce rapport justement au corps physique se déplaçant, qui est très important dans ses installations. Donc Horace, en fait, elle dit, bon, elle fait des installations, elle a fait aussi des vidéos, et elle me disait, en fait, je crois que je fais de la performance, mais je ne suis pas encore allée jusqu'à l'étape où le corps est en action devant le public. Mais il y aurait quelque chose de plus proche de la performance que de l'installation dans son travail. Alors j'avais envie de te parler d'une pièce en particulier, parce que c'est celle dont on a le plus parlé, puis c'est c'est un gros travail qui s'organise en plusieurs chapitres et qu'elle appelle des chants. Donc toujours ce lien avec la mythologie, évidemment. Et donc c'est une œuvre qui s'appelle La solitude d'un funambule dans un champ d'asphodèles. Alors les asphodèles, ce sont d'une part, c'est un endroit des enfers dans la mythologie grecque ou romaine, je ne sais pas. Ou en fait, c'est un enfer avec plusieurs... Enfin, c'est des enfers plutôt au pluriel, donc il y a plusieurs endroits. Il y a celui pour les gens qui étaient des gens très bons et celui pour les gens qui étaient plutôt des mauvaises personnes. Et il y a aussi les asphodèles, qui sont cet endroit où on a été, si on n'a pas été ni l'un ni l'autre, on a été un peu intermédiaire, un peu neutre. Et à ce moment-là, on est condamné à errer dans les asphodèles jusqu'à réincarnation ou pour l'éternité. Et je pense que cet état de l'entre-deux et de l'errance s'intéresse beaucoup aux races. L'asphodèle est aussi le nom d'une plante, d'une fleur hermaphrodite qui apparaît dans un livre de Virginia Woolf, Orlando. Et donc là aussi c'est un état entre deux, entre le masculin et le féminin. Et ça va revenir constamment dans le travail d'Horace. Et donc l'installation, alors je vais te décrire le premier chant qu'elle a présenté pour son diplôme, qu'elle a présenté à plusieurs reprises, donc dans des espaces différents, donc avec des enjeux un tout petit peu légèrement décalés à chaque fois. Quand elle a présenté pour son diplôme, on rentrait dans une pièce où tout de suite il y avait un escalier qui descendait vers la droite. Et on voyait en fait une sorte de grille projetée, donc c'est les grilles que tu peux mettre sur le vidéoprojecteur pour régler les trapèzes, tout ça. Et donc il y a cette grille qui est projetée, à ras contre le mur, quoi. Donc ça rase en fait un mur qui est pendrillonné, donc où il y a un rideau qui du coup n'est pas lisse, n'est pas tendu, donc en fait l'image elle est fragmentée sur chaque ondulation du rideau et se tape après sur le mur d'en face où là on voit, c'est le seul endroit où on voit la grille. Après on descend donc cet escalier, on arrive dans un espace, ah oui le premier champ, alors je crois que s'il s'appelle, j'ai oublié, mais il y avait un truc avec l'or bleu. Bon bah voilà pour les imprécisions qui refont face. En tout cas, il y a une lumière bleue qui baigne l'ensemble de la pièce. Il y a notamment un élément qui a un néon qui est accroché au mur et sur lequel est posé ou accroché par-dessus une gélatine bleue qui du coup évidemment elle est collée au mur en haut et puis elle tombe par-dessus le néon en bas. Et ça crée donc une lumière bleue, mais ça crée surtout un jeu avec les aspérités du mur derrière et crée l'impression vraiment de voir une sorte de surface de planète en fait. Et donc ça par exemple c'est un des effets qu'on remarque quand on se déplace devant cet élément de l'installation et que sur les photos on n'arrive pas du tout à se rendre compte. Donc là ce que je te raconte c'est aussi Horace qui m'a raconté ça, parce que moi j'ai eu accès évidemment qu'aux photos du portfolio et au récit d'Horace. Et il y a d'autres éléments qui sont des pans, des planches de bois en fait, grandes, peintes en bleu. Il y en a 3 ou 4 qui sont disposées de manière à se chevaucher légèrement et qui sont posées contre le mur et donc juste appuyées mais qui sont maintenues par un petit assaut. Donc ils sont quand même à distance du mur et... Donc c'est des pans qui viennent un peu casser l'espace, donc jouer avec une idée de fragilité, d'équilibre. Il y a aussi dans l'espace... alors il y a des vidéoprojections. Et ce sont des projections sur lesquelles on voit donc une personne qui s'appelle Raya et qui est quelqu'un avec qui Horace a déjà travaillé plusieurs fois. C'est quelqu'un de très androgyne. Bon, c'est donc un garçon aux cheveux longs et au visage très fin, très efféminé. Et qui apparaît sur deux vidéos différentes. Il y en a une où on a un gros plan sur son visage et où il baisse et il lève la tête très lentement, un peu comme s'il se regardait dans le miroir et s'il s'inspectait. Et selon l'angle du coup à laquelle il tient son visage, il ressemble plus à un homme ou une femme. Donc il y a un jeu comme ça de nouveau avec cette idée de l'entre-deux. Sur une autre vidéo, on le voit vêtu d'une toge. Et il a le bras légèrement levé. Enfin, c'est vraiment une image de statuaire, grec du coup, qui est mis en jeu. Et ces images, elles ne sont pas juste projetées sur le mur ou sur les panneaux bleus dont je viens de parler. Elles sont projetées l'une sur un rhodoïde qui est accroché dans l'espace. Et du coup, l'image, elle vient. Alors, c'est pas des rhodoïdes. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Des écrans de sérigraphie ? Je ne sais plus. En tout cas, c'est une matière un peu particulière qui, du coup, fait écran, capte l'image, donc tu as l'image qui se matérialise sur cette feuille accrochée dans l'espace, qui laisse transparaître la lumière, et du coup l'image est projetée une deuxième fois derrière sur le mur, légèrement plus flou, mais pas beaucoup plus. Donc il y a un dédoublement de l'image dans l'espace, et il y a un autre film transparent de ce même type qui est posé, lui, dans la salle. Il est roulé en fait sur lui-même, donc il forme une colonne. Et là, l'image, elle est projetée là-dessus, et donc le rhodoïde forme plusieurs couches pour former ce rouleau, et donc on a vraiment une démultiplication de l'image sur plusieurs strates, mais qui sont très proches les uns des autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'espace ? Il y a un élément en bois sur pied, un cadre sur pied, qui est à peu près à la hauteur d'un visage, et qui, donc c'est un cadre en bois, format portrait. Et il y a un quadrillage en fait là-dedans, et c'est un outil dont se servaient les peintres dans la Renaissance en fait pour reproduire de manière la plus réaliste possible un espace sur leur toile. Donc il rappelle évidemment la grille du coup du projecteur aussi. Donc tous ces éléments jouent avec la notion d'écran. Un écran qui est à la fois opaque et translucide, qui donne à voir et qui cache. Donc il y a différents degrés d'opacité dans les écrans que Horace utilise dans son installation. Il y a une volonté de perturber l'espace, de perturber les angles de la pièce. Donc il y a un jeu avec la notion de limite, de délimitation, et qui renvoie à cette quête d'identité qui est mis en jeu de ce personnage hermaphrodite comme le chant des asphodèles. Et il y a aussi dans cette idée, parce que du coup il y a un premier chant à cette pièce, le premier chant où il y a quelques éléments qui apparaissent dans le premier chant. Enfin, elle a fait le prélude en fait plutôt. Plutôt que de faire le deuxième chant, elle a fait le prélude, en se disant qu'il fallait préciser un peu comment on arrivait là. Donc elle essaye de fonctionner par couleur pour chaque chant. Donc le prélude, il est plutôt blanc. Blanc et puis arc-en-ciel, parce qu'elle joue avec la réfraction, là encore. Et donc il y a quelques éléments en plus. Il y a un masque du visage de Raya. Il y a des cailloux sur lesquels il y a des yeux qui sont gravés dedans. Et du coup... En fait, ça renvoie à un mythe, à un rituel de passage qu'on posait sur les morts à l'époque des Grecs. On leur posait des cailloux sur les yeux une fois qu'ils étaient morts. Et sur ces cailloux, il y avait des yeux ouverts qui étaient dessinés dessus, et c'était censé les aider à voir le chemin pour aller aux enfers, justement. Dans l'au-delà, en tout cas. Et donc il y a ces yeux-là, donc il y a le masque qui parle encore une fois de représentation d'image, d'absence, et toujours un rapport à la mort en fait, à cette espèce d'état second où on n'est plus dans notre corps. Il y a un jeu de réfraction avec une lampe torche qui éclaire un prisme qui du coup éclaire un tas de farine. Donc, toujours une idée de de briser les formes extérieures, de questionner les contenants et les contenus avec un regard toujours sur la question de l'identité genrée ou même vivant, mort, âme, corps physique, toutes ces choses-là qui sont mises en jeu. Et il y a un travail sonore aussi qui est fait dans ces installations-là. Donc le son est un élément qui a toujours été important dans le travail de Horace. Assez minimaliste, si j'ai bien compris. Donc j'ai pas, tu vois, là aussi j'ai pas pu entendre en fait le son. Mais le son, je pense, sert de la même manière que les projections, la multiplication des écrans. Ça sert à questionner l'espace dans ses limites, dans comment un son ou même une image, un rayon de lumière ou une onde se heurte contre une délimitation physique, un mur, est renvoyé dans l'espace et informe du coup nous, notre corps, dans l'espace. Donc il y a quelque chose toujours de cet ordre-là et puis une dimension évidemment théâtrale, opéra-esque, donc l'opéra étant une grande influence pour Horace. J'espère que tu as pu t'imaginer un peu la pièce dont je te parle. et puis je te dis à très bientôt, Camille, parce qu'on va se revoir dans pas longtemps. Je t'embrasse.